ahí va Alberto, ahí va Alberto. Cambio de ritmo de Alberto Contador. Ahí la parte final. Schleck. Como una moto,
Nibali, 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 gran dato.
Prova Nibali.
Grandissimo Vincenzo.
Dietro si voltano.
Lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lens, sort de ce corps.
Bonjour à tous, c'est Lucas et bienvenue pour un nouvel épisode du Débrief by Dossard 13. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la saison et on va surtout parler des classiques flandriennes. Parce qu'on enregistre tout simplement cet épisode le lendemain de Paris-Roubaix. Un Paris-Roubaix qui nous a réservé quand même pas mal de spectacles, on débriefera ça juste après. Et pour parler de tout ça, je suis toujours en très bonne compagnie. Comment vas-tu aujourd'hui, Guillaume ?
Ça va super, une cheville un petit peu en vrac, mais rien de méchant suite à une erreur d'appui sur une course trail. Mais bon, je me suis régalé. Et toi, Luca, la forme ?
Bah écoute, c'est le retour des beaux jours, donc tout simplement le bonheur, quoi, j'ai envie de te dire. On rentre désormais dans le vif du sujet. On va pas parler de Pâques très longtemps, mais on va tout simplement parler des Flandriennes. Alors moi, de mon côté, personnellement, malgré, encore une fois, le spectacle de Paris-Roubaix qui est le feu d'artifice d'une campagne flandrienne toujours merveilleuse, cette année, j'ai quand même préféré le Tour des Flandres. Paris-Roubaix a maintenu toutes ses promesses. Mais cette année, le Tour des Flandres, c'était vraiment n'importe quoi. Il y avait tous les ingrédients pour être la course de l'année. Pour l'instant, ça l'est. Et je pense que ça peut le rester jusqu'au bout de la saison. Parce qu'on a quand même eu un cocktail explosif de Pogacar, Van Aert, Van Der Poel. Une course folle dès le début. Forcément, je me souviens encore qu'on avait discuté. Bah, on avait peur, par exemple, qu'un Van Der Poel ne puisse pas rentrer dans le peloton dès le départ. Mais tout simplement, ce qui me pousse à dire que le Flandre cette année était mieux que Paris-Roubaix en termes de spectacle, c'est à froid. L'effet de course, assez logique dans les Flandriennes, ont poussé à simplifier la victoire de Mathieu Van Der Poel sur le vélodrome de Roubaix. Entre la chute de Degenkolb, les multiples crevaisons de Jumbo et aussi un Jasper Philipsen qui était peut-être le plus fort ce jour-là. Et comparé aux autres éditions aussi, il n'y a eu aucun héros de l'ombre, tout simplement parce que l'échappé n'a pas pu prendre son va-tout. Et tout le contraire de la course des filles qui a été franchement ultra intéressante.
Ouais, et pour revenir plus sur Paris-Roubaix, on en avait parlé au précédent podcast. On avait émis l'hypothèse qu'on avait quand même pas mal de potentiels vainqueurs. Et au final, on n'avait pas vraiment tort quand même, parce que quand tu regardes la course, bah, c'était un groupe de 7 principalement qui a fait le spectacle, et même malgré quelques attaques de Mathieu Van Der Poel, ce groupe de 7 est resté le même pendant longtemps, malgré des attaques quand même très puissantes. On le sait, Mathieu Van Der Poel, que l'attaque sur du faux plat, bah, t'as pas envie de prendre 2 mètres, sinon c'est finito. Et bah, malheureusement, jusqu'à la fameuse chute de Degenkolb qui, je te rejoins, a participé à simplifier la victoire de Mathieu Van Der Poel, parce que surtout, en espace d'un secteur pavé, ça fait chute de Degenkolb, et crevaison 2 km plus loin, même pas 1 km plus loin de Van Aert. Donc c'est vrai que le spectacle était beau jusqu'à ce fameux secteur pavé où Mathieu Van Der Poel s'est retrouvé seul. La tâche était clairement simplifiée, même si c'était le coureur le plus actif sur Paris-Roubaix. Il était intouchable, il avait tous les ingrédients de son côté. On sait que Paris-Roubaix, il faut aussi un petit côté de chance pour pas crever.
Non mais bien sûr, je suis totalement d'accord aussi sur le fait que Mathieu Van Der Poel était sûrement le plus fort ce jour-là, il méritait la victoire, mais on aurait quand même mis un peu plus de bagarre tout simplement avec Wout Van Aert qui est quand même assez régulièrement malchanceux, où il lui manque à chaque fois le petit truc pour obtenir la victoire.
Ouais, parfois un peu généreux aussi, on va pas se mentir.
Ce que je retiens moi surtout de Paris-Roubaix, c'est que quand même le groupe des gros est sorti quand même après, enfin même avant la trouée d'Arenberg, et au final ils se sont regroupés en groupe de 11 ou 14, je ne sais plus exactement, avec l'échappée aussi, etc. Mais juste après la trouée, et au final ça donne 80 km où derrière t'as un No Man's Land, Et au final, bah, la course est entre guillemets un peu pliée. Il y a un peu moins de suspense. Alors que par exemple, chez les filles, on a eu le droit à un scénario de course complètement fou. Et franchement, j'ai adoré suivre la course des filles. Encore plus que celle des garçons, si c'est pour te dire. Mais encore une fois, ça va un peu dans ce que j'ai un peu vu depuis le début de saison, qu'on peut retrouver aussi par exemple sur les courses par étapes d'une semaine en World Tour. Les gros répondent présents. Pas d'échappée, rien. Que les gros qui se veulent la victoire. Il n'y a plus de surprise. On va dire vraiment, ça va au bout. On va dire pour les Mathieu Van Der Poel, par exemple, sur l'Estrade Roubaix, Pogacar sur Milan-San Remo, les Flandres, Paris-Nice, Roglic, Catalogne-Tirreno, ou encore des Philipsen, Remco et des Wood Van Aert. Il n'y a pas de place pour les autres face aux Martiens qui explosent littéralement tout sur leur passage.
C'est vrai, t'as pas tort. On voit toujours les mêmes têtes et c'est vrai que cette année, on n'a pas eu d'énormes surprises. Et les leaders sont peu à être passés à côté de leur course. On dit que Wout est passé à côté de ses classiques, mais il était quand même présent dans la course. Donc c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes.
Je trouvais ça fou quand même, pour clore ce chapitre-là, qu'aucune échappée pour l'instant elle est au bout sur des courses comme par exemple le Tour de Catalogne, Paris-Nice, Tirreno. Non, c'est les gros maintenant en termes de... Il n'y a plus vraiment de stratégie. C'est tout simplement les extraterrestres qui écrasent, et derrière c'est un peu en mode sauf qui peut.
C'est ça, et je pense que on n'en a juste pas parlé, et ça va nous permettre de passer au sujet suivant, c'est la Jumbo. On va revenir plus en profondeur sur eux, mais alors par contre, sur ce Paris-Roubaix particulièrement, petit aparté rapide, mais visiblement le choix de Matalen n'a pas été un succès quand on voit leur nombre de crevaisons. C'était catastrophique. Alors moi, j'ai entendu parler d'un nouveau système qui permet de contrôler la pression des pneus. Bah, c'est super, mais par contre, il faut juste aussi se focus sur les pneus, parce que là, c'était une catastrophe. Vraiment, Van Aert qui a crevé deux fois, pareil pour Laporte, il y a un moment, bon, quand même.
Mais Jumbo, comme tu l'as dit, et comme je vais le dire, ça reste la soupe à la grimace. Il y avait une super team. Franchement, l'équipe était incroyable sur le papier. Avec Van Barle, tenant du titre, Van Aert, Laporte, Benoot, Van Hooydonk qui écrase. Enfin bref, une équipe vraiment XXL qui a montré en plus au début de saison qu'elle était la meilleure, clairement. Mais elle a été présente partout, sauf sur les deux monuments. Tour des Flandres, Paris-Roubaix, zéro, nada, loupé. Clairement, la super team n'existait pas. Parce que bon... C'est bien beau d'aller faire des doublés, des triplés, mais il faut être là présent quand même au moment le plus important de la saison, qui reste les Flandres et Paris-Roubaix. Je pense que, encore une fois, par exemple, on l'a bien vu quand Van Aert a laissé la victoire à Laporte sur Gent-Wevelgem, c'est parce qu'il s'en fout complètement de Gent-Wevelgem. Lui, ce qu'il veut, c'est le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et malheureusement, encore cette année, bis repetita, on est reparti pour la même que l'année dernière. Il est pas là et j'ai envie de te demander, est-ce que pour toi c'est pas déjà une saison loupée pour lui tout simplement?
Après voilà, il était en forme sur les courses qu'il voulait, parce que il fait 3 de Milan San Remo, bon sur Saxo premier, après voilà il laisse Gent-Wevelgem à la porte, il est toujours dans le top 3-4, mais voilà, lui, il veut plus, il voulait la classique, donc on peut dire raté. Après, c'est pas catastrophique en mode il était transparent. Allez, on va être un peu méchant, mais un peu. Ouais, pour l'instant, c'est raté. Mais la saison, on va pas tout de suite parler de saison ratée non plus.
Ouais, moi, je suis pas d'accord, franchement. C'est quand même ces deux gros objectifs de la saison. Ça reste un coureur, on va dire, et puis même, on se souvient que du vainqueur. Et là, encore une fois, tout simplement, pour moi, c'est déjà une saison loupée.
Attends, il va aller te claquer le Tour de Lombardie, même si c'est pas le genre de course qui lui correspond. Il va aller te claquer ce genre de course, on s'y attend pas. Donc, moi, avec Wout Van Aert, j'ai appris à attendre, parce qu'il peut gagner sur n'importe quel terrain. Ça se trouve, il va faire un doublé au championnat du monde. Et là, par contre, on pourra plus parler de saison ratée.
Ouais, alors je te laisse le bénéfice du doute dans le sens où S'il fait un doublé route chrono au mondial, alors ok, c'est pas une saison loupée. Mais pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est le quoi qui est capable de gagner partout. Certes, il gagne partout, mais pour l'instant, en termes de classique, à part Milan Sanremo, qui est peut-être la plus dure à gagner, qu'il a remporté en 2020 en termes de scénario de course, pour l'instant, sur Paris-Roubaix, Tour des Flandres, qui sont ses deux gros objectifs quand même de l'année, bah pour l'instant, non, c'est... Désolé, mais pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas. C'est... Il enchaîne les places d'honneur, les podiums, mais on en attend plus de sa part.
Je te rejoins. Je te rejoins quand même. Et du coup, en parlant de Jumbo, moi, je voulais rebondir sur Laporte, parce qu'on en attendait quand même beaucoup de lui, mais pas forcément autant que ça. Et quel régal de le voir également répondre à ses détracteurs en portant à travers les fentes seul. Personne ne lui a donné cette victoire et franchement, il a cherché avec les jambes. Et comme dit, moi, j'ai quand même le petit point noir. C'est très triste qu'il ait enchaîné les crevaisons sur Paris-Roubaix parce qu'il était dans le groupe de tête, dans le bon groupe. Et si la chance était de son côté, donc on enlève les crevaisons, bah, il aurait pu suivre Mathieu Van Der Poel. Et si Van Aert crève quand même, bah, pourquoi pas un duel Van Der Poel Laporte pour la victoire finale. Bon, après, voilà, avec des si on refait le monde, c'est beaucoup trop facile. Mais clairement, j'aurais tellement aimé qu'il puisse être au moins dans ce premier groupe, voir ce que ça aurait pu donner. Ça aurait pu être, pour le côté chauvin, voilà, ça aurait pu être sympa.
On va quand même beaucoup critiquer dans cet épisode, mais on va enchaîner sur une autre équipe qui, pour moi, a été transparente sur ses classiques.
Ah, c'est pire, hein. C'est pire que Jumbo, là, c'est vraiment la disaster class.
C'est Quickstep. La Soudal Quickstep qui a été 0 de chez 0. Entre malchance et incapacité à peser sur la course, la Quickstep n'a pas réussi à redevenir l'équipe qu'elle était. J'avais de grandes espérances en Kasper Asgreen, mais malheureusement, il n'a pas réussi à briller plus que ça, avec malheureusement avec pas mal de malchance encore sur Paris-Roubaix où il a lourdement shooté dans la trouée. Mais moi, tout simplement, comme on en a déjà parlé aussi, il risque d'y avoir un gros ménage au prochain mercato où il y a quand même pas mal de coureurs qui sont en fin de contrat ou qui vont peut-être gicler. Et tout simplement, bah, ça va être le bon Remco qui va être en leader unique de la meute. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement autour? Parce que certes, c'est bien d'avoir un gros leader qui est Remco. Mais là, par exemple, l'équipe, elle fonctionne déjà très bien avec Remco en leader. Et à côté, normalement, tu as quand même la place pour des gars sur les classiques et pour les sprints comme actuellement ils ont avec Merlier et Jakobsen. Mais là, par exemple, sur les classiques flandriennes, c'est la catastrophe. Parce que Q-Step, sur les 5 grosses courses, ils n'ont pas fait un podium. Ganvevelgem, 14e, Merlier. E3, Lampaert, 16e. À travers les Flandres, Ballerini, 7e. Flandre, 7e, Asgreen. Et pour finir, Roubaix, 23e avec Merlier. C'est catastrophique.
Bah, je suis d'accord avec toi. En plus, Merlier, bon, ok, bon sprinter, il s'en sort bien sur le tour, mais... On attendait un peu plus lui sur les pavés. En plus, c'était la recrue chez Quickstep. Donc, écoute, hein, Quickstep, ils ont voulu piocher chez Alpecin Phoenix et visiblement, ils n'ont pas pioché le bon belge. Pas de chance. Et après, il faut qu'on en parle aussi, mais la technique de Pat Lefebvre de chier sur ses leaders n'aura donc pas marché. Lui, sa technique, c'était de chier pour réveiller leur ego dans les journaux. Mais sauf qu'à un moment, quand tu fais que ça, bah je pense pas que ça aide. Donc pas très surpris. Place au classique Ardennes, si l'équipe ne ramène pas au moins une victoire, ce sera vraiment une véritable catastrophe. Vraiment. T'imagines ça, Quickstep qui ramène pas ne serait-ce une classique flandrienne ni Ardennes, ça serait oufissime. On n'aurait pas pu prédire ça. Donc voilà, moins de blabla dans les journaux. Clairement, chez Quickstep, on le voit. C'est la fin d'un très gros cycle et il va falloir réfléchir sérieusement à la suite, comme tu l'as dit, au prochain mercato notamment. Après, pour la défense de Pat, on était très peu, je pense, à pouvoir imaginer que le cycle au sein de la Quickstep se soit terminé aussitôt, parce qu'on voyait quand même l'équipe perdurer, avec les mêmes têtes d'affiche, au moins, allez, encore 2 ans, au moins. Et franchement, je pensais pas que ça arriverait aussi vite.
Ouais, bah, ils sortent d'une saison l'année dernière loupée en termes sur les classiques flandriennes. Là, cette année, c'est pareil. Malheureusement, Ouais, c'est compliqué, mais on verra, comme dit sur les Ardennaises, avec un Julien Alaphilippe leader sur la flèche et un Remco qui devra conserver son titre sur Liège-Bastogne-Liège. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On va parler aussi d'une autre équipe belge, encore une. Après Quick-Step, c'est Intermarché. Et là, c'est pas vraiment une disaster class, c'est plus les clowns. Parce que là, il y a même plus de doute, franchement, c'est n'importe quoi. Alors, pourquoi on dit ça? Alors, tout simplement, ils ont écrasé le début de saison, mais ils marchaient sur l'eau. Mais c'était totalement fou, au point on va dire, de faire des jeux de mots sur Intermarché, comme les courses sont bonnes, parce qu'il y avait quand même pas mal de doutes là-dessus. Il y avait pas mal de doutes sur l'équipe et les performances, par exemple, d'un Rui Costa. On s'était dit, attendons de voir ce qu'il va se passer, on va dire, dans les semaines à venir, parce qu'on va dire, c'est peut-être juste la bonne forme du début de saison. Alors, c'est pas que c'est on va dire, la bonne forme du début de saison. Là, ils sont transparents, c'est transparent. J'ai jamais vu des mecs marcher aussi fort pour disparaître autant. Des mecs qui marchent autant puis qui disparaissent d'un coup comme ça, c'est bizarre. C'est bizarre.
Ouais, t'as pas totalement tort, et moi ça m'a fait penser à un autre parallèle un peu plus foireux, mais ça me fait penser à l'équipe Europcar il y a plusieurs années. Tout le réussi, il y a une rumeur qui sort, ils sont tapés sur les doigts peut-être en interne, et d'un coup, plus rien, un trou de plusieurs années. Bon, il y a eu Calmejane qui avait trouvé la potion chez un druide et qui après a disparu aussi, mais bref. Après, voilà, là, on est un peu dans nos, comment dire, dans nos comparaisons un peu foireuses, mais c'est vrai que l'Intermarché, c'est un gros point d'interrogation. Punaise, le début de saison, les premières courses, ils sont partout, ils gagnent tout. Ils arrivent à ressusciter Rui Costa. Et d'un coup, plus rien. Bon, ils nous ont failli nous pondre un tout petit, je vais pas dire un gros classique, mais Lorenz Rex, 9e de Paris-Roubaix, comme 10 points d'interrogation quand même sur cette équipe, c'est un peu bizarre, mais bref.
Et ce qu'on disait, nous, en ce qui concerne Europcar, pour faire le parallèle, c'était que sur le Tour 2011, lorsque Thomas Voeckler et Pierre Roland chez Europcar qui écrasaient comme des petits loups sur le Tour de France, mais à un point où c'était devenu totalement fou, des jours en jaune pour Voeckler, Roland qui écrasait comme jamais, bah tout simplement le bon Nicolas Sarkozy est descendu dans le bus de l'équipe sur une étape et il leur a dit bon, calmez-vous les petits loups, ça commence à se voir que vous êtes chargés comme des petites mules. Donc c'était quand même la belle époque, quoi. La belle époque où Europcar et le bon Voeckler qui grimaçait comme un vieux charognard sur le vélo, mais la bonne époque, quoi, j'ai envie de te dire.
Ouais, une époque. Après, moi, j'étais fan de. J'ai beau. Enfin, fan, et j'aimais beaucoup Pierre Roland, donc bon. Écoute, et surtout, il y en a un aussi, il faut qu'on en parle, chez Wanty, qui est porté disparu. Enfin, il y a eu une lueur d'espoir. C'est Biniam Girmay. On le voit un peu par-ci par-là, Tirreno-Adriatico, mais après, Milan Sanremo, 28e, abandon sur la Saxo Classique, abandon sur le Tour des Flandres. C'est dur, hein? C'est dur. Après, je l'aime toujours bien ce coureur, donc j'espère vraiment qu'il reviendra au premier plan dans la saison, qu'il reviendra en forme, mais ouais, difficile.
Et on termine en tout cas ce chapitre sur les courses qui sont passées sur le mois de mars. C'est tout simplement la sieste basque et non plus le tour du Pays basque, parce que j'en ai vu des purges, mais alors celle-ci.
Je sais pas pourquoi je me suis mis devant aussi, et franchement, bah, je me suis fait chier.
Ouais, le parcours était sans saveur, l'absence de concurrence face à Vingegaard, Godu qui rentre dans ses standards après un Paris-Nice assez étincelant, même constat pour Enric Mas qui après son beau Tirreno bah, n'a pas eu les jambes pour briller sur la course espagnole.
Alors Mas, il a pas eu les jambes, mais il a tenté quand même une ou deux fois plus que d'habitude quand il a pas de jambes. Donc Mas, je finis par l'apprécier.
Et encore une fois, comme on a parlé, pas d'échappée qui vont au bout, Vingegaard qui fait l'ogre, et ça aurait été tout de même intéressant de voir Landa, qui était en très bonne condition, voir ce qu'il aurait pu faire, tout simplement, aux côtés avec un Pello Bilbao qui était en forme, malheureusement qui a rapidement abandonné au départ de la deuxième étape à cause de petites douleurs, je crois, au niveau de la gorge. Mais ça aurait été sympa de voir ce qu'il était possible de faire pour concurrencer Vingegaard.
Ouais, pas grand-chose à rajouter sur la sieste basque.
Qui dit fin des classiques flandriennes dit début des classiques ardennaises. on aura le droit à de belles courses, de jolis spectacles et surtout un final en apothéose avec enfin le duel Pogacar-Remco sur Liège-Bastogne-Liège et ça va être formidable parce que honnêtement je crois qu'on les a quasiment jamais vu rouler sur les mêmes courses ensemble Pogacar et Remco et c'est quand même deux coureurs qui sont là, bah c'est le cyclisme champagne qui sont là pour attaquer de loin, faire la course, créer du spectacle. Donc ça va être forcément passionnant de voir ce qu'ils vont être capables de faire les deux sur la même course.
J'ai hâte aussi, moi j'ai toujours un petit espoir pour voir Julien jouer devant, mais bon je pense que là dans la hiérarchie Remco est trop haut. Trop haut et trop loin.
Et on finit cet épisode en disant qu'il faudra aussi ouvrir un petit débat sur à quoi sert l'UCI entre des fins d'étape ou des parcours qui sont totalement dangereux, comme par exemple la deuxième étape du Tour de Pays Basque qui était en descente. Certaines questions liées à certains produits qui doivent quand même être régulés, on va dire, au sein du peloton, comme par exemple les cétones. Mais ça, c'est un débat qu'on a depuis très longtemps. Mais surtout aussi au fait que l'UCI attribue le label continental UCI à des équipes qui n'ont pas les finances, tout simplement. Je pense à ZAF, l'équipe féminine d'Audrey Cordon-Rado, qui était en sous-contrat jusqu'à il y a quelques jours et qui a pu changer, on va dire, d'équipe. On va dire, à quoi sert l'UCI si elle n'étudie pas vraiment au final les accréditations au sein des différentes courses, mais surtout à la labellisation des équipes en début d'année. Et là, tout le monde sait que les coureuses ne sont pas payées. Personne ne fait rien en termes d'organisation et au sein de l'UCI. C'est un peu... Enfin, c'est étrange.
Ouais, c'est étrange et comme d'hab, l'UCI qui dort et ouais, je comprends pas. Une inaction sur plein de points, ça bouge pas, c'est frustrant.
Mais attention, les chaussettes sont un peu trop hautes chez les coureurs.
Ouais. Très bonne remarque.
Allez, c'est tout pour 213. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Passez une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.